Voilà, gloire à Dieu. Je vous dirai que ce n'est pas facile pour moi. Vous savez pourquoi? Mais enfin, Dieu a placé sur mon cœur certaines paroles, un message qui vient, je pense, de la part de Dieu. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Et nous ferons une courte lecture à partir du verset 26. Alors, Colossiens 1, et à partir du verset 26, il est dit ceci, « Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et Paul ajoute, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Voilà une lecture très courte et ça nous parle de mystère. Alors le mystère, c'est toujours quelque chose que l'on ne connaît pas, c'est caché, mais là, ça nous a été révélé par la parole de Dieu, que Dieu soit béni. Quand nous entendons ou nous acceptons plutôt Jésus comme sauveur, au travers de la parole, le Saint-Esprit pénètre en nous. Cette parole qui était pour nous lettre morte devient vivante et nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance. Et quand Dieu, par son Esprit, agit en nous. Ce mystère, Christ, en nous, n'était pas connu aux anciens temps. Je pense à Jérémie, Moïse, David. Ils n'ont pas compris ce que nous, maintenant, ce qui nous a été révélé. C'est en effet quelque chose d'extraordinaire de savoir que Dieu puisse s'unir à la race humaine en mettant dans leur cœur le Saint-Esprit, alléluia, afin que nous devenions des enfants de Dieu. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, et nous pouvons que bénir le Seigneur, car il est impossible à un homme, à une femme, de connaître véritablement Dieu sans avoir le Saint-Esprit en nous, dans nos cœurs. Alléluia. Et quand nous venons à Jésus, eh bien nous ouvrons notre cœur et le Saint-Esprit rentre, pénètre en nous. Et vous savez qu'il est écrit dans la parole de Dieu que le cœur, notre cœur est devenu le temple du Saint-Esprit. Et Dieu désire que nous soyons vraiment les uns et les autres ce temple du Saint-Esprit. C'est là tout le plan de Dieu. Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme afin que nous, fils des hommes, nous devenions fils de Dieu et nous sommes devenus, merci Seigneur, devenus des enfants de Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, si ça n'avait pas été cette vérité si profonde et si ancrée dans mon cœur. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous apporter ce message et cette parole de Dieu et qui m'a été donnée. Et je bénis le Seigneur, car il agit par son esprit, et quand nous acceptons, quand nous lui disons « Seigneur, instruis-moi » comme nous l'avons chanté tout à l'heure, eh bien le Seigneur le fait par son esprit et par sa parole qui est une lumière pour notre cœur et une lumière sur notre sentier. Que Dieu soit béni. Mais il faut maintenant quand même mettre au point certaines idées qui circulent dans le monde. Il y a des gens qui croient que lorsqu'on devient chrétien, quand tout bébé, on reçoit par quelques gouttes d'eau ce que certains appellent le baptême. Ce n'est pas là ce qu'enseigne la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui croient que l'on est enfant de Dieu par droit de création, par conséquent, eh bien, nous sommes tous des enfants de Dieu. Voilà. Il y a des gens qui croient cela. Mais il faut faire, je crois, une nette différence entre la création, par exemple, d'Adam et la nouvelle naissance. Quand Dieu a créé Adam, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est dit dans la parole de Dieu qu'il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et Adam est devenu une âme vivante. Mais tandis que Jésus fait beaucoup plus que cela, il est un esprit vivifiant, alléluia, nous dit la parole de Dieu, quand il vient dans un cœur, il apporte une nouvelle vie, c'est la vie de Dieu et qui vient en nous. Que son nom soit béni. Et quand la vie de Dieu vient en nous, eh bien nous pouvons vraiment vivre et marcher dans les voies de Dieu tout en nous instruisant, en lisant la parole de Dieu. Ce n'est pas en la laissant, n'est-ce pas, sur notre table de chevet ou bien sur un meuble quelconque, mais c'est en l'ouvrant tous les jours et en nous instruisant au travers d'elle et en nous laissant instruire par le Saint-Esprit et nous parler par le Saint-Esprit. L'apôtre, parlant de cette expérience, la présente ainsi. « Instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Mais pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Alors, la parole de Dieu emploie tout homme et toute femme. Et nous devons, eh bien, nous laisser instruire par la parole de Dieu. Dieu désire non seulement que nous passions par la nouvelle naissance, mais il désire que nous parvenions à un tel développement que l'on reconnaisse en nous la stature parfaite de Christ. Les apôtres étaient arrivés à ce point-là. Nous comprenons mieux encore quand Paul, quand il disait « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ » dans 1 Corinthiens 11:1. Il était tellement uni à Jésus qu'il désirait que tous nous fassions cette merveilleuse expérience. Paul, vous savez, c'était un homme de Dieu et il se tenait devant la face de Dieu pour recevoir toutes ces instructions. Et ce que je vous apporte là ce soir, je me suis tenu devant Dieu pour pouvoir vous parler comme je vous parle. Il est certain que lorsqu'aussi que nous considérons par exemple Pierre et Jean, après leur baptême dans le Saint-Esprit, il y a eu un changement radical, tellement radical que leur adversaire était obligé de le reconnaître. Et que dire d'Étienne ? Étienne, vous connaissez son histoire, il avait reçu de Dieu des dons miraculeux. Étienne a annoncé l'Évangile. Quand il comparut devant le Sanhédrin, il donnait un témoignage si puissant que tous ses accusateurs, quand ils le regardaient, ils étaient confondus devant Étienne, et ils le regardaient. Et quand il voyait son visage, il est dit dans la parole de Dieu, son visage paraissait comme celui d'un ange. Vous pouvez le lire cela dans Actes 6, 15. Sans doute que, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Fixant ses regards vers le ciel, il pouvait dire ceci, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Vous pouvez aussi le lire dans Actes 7, 56. C'est ainsi que Dieu désire que nous soyons débordants du Saint-Esprit. Il veut que le terrestre soit assujetti au céleste. Et il veut que Christ règne totalement dans nos cœurs. Il y a une parole extraordinaire et qui, comment pourrais-je dire, pour reconnaître ceux qui vraiment sont nés de nouveau. Et cette parole se trouve dans 2 Corinthiens 5, 17. Il est dit ceci, vous la connaissez, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et moi, je me souviens, lorsque j'ai connu le Seigneur, lorsque j'ai donné ma vie à Dieu à l'âge de 18 ans, dans l'usine où je travaillais, les gens se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, parce que je n'agissais plus comme auparavant, je ne faisais plus les choses comme auparavant, tout avait changé à moi, à tel point que je me demandais si le monde n'était pas en train de changer, mais ce n'était pas le monde qui changeait, c'était moi, c'était mon cœur, et il y avait quelque chose d'extraordinaire et qui s'était passé à moi. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, comme nous l'avons lu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand nous donnons notre cœur à Dieu, les gens le voient et s'aperçoivent et se rendent compte que l'on n'est plus comme avant, que nos façons de faire ne sont plus comme avant, et notre comportement, notre langage, notre vie, notre conduite, tout change. Et les gens s'en rendent compte, à tel point que quand je me suis converti, que j'ai donné mon cœur au Seigneur, les gens, ils pensaient que je pouvais faire ce que je faisais autrefois. Et alors, ils me reprochaient de ne pas le faire. Et je leur disais non, je suis devenu chrétien et j'écoute la parole de Dieu, ce qu'elle me dit et ce qu'elle m'enseigne. Et dans cette usine, j'ai vu des gens se convertir, se tourner vers Dieu, et j'ai vu des gens qui ont pu venir vers le Seigneur parce que il y avait le témoignage de chrétiens qui étaient là et Dieu agissait dans les cœurs. Je voudrais maintenant vous montrer la différence qu'il y a entre un homme religieux et un vrai chrétien. Pierre nous la montre dans un passage de son épître, dans 2 Pierre 1, 3, 4. Ne le cherchez pas, vous pouvez le noter. Il nous appelait par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption et qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà une parole que Dieu veut que nous comprenions, que nous la mettions en pratique et que nous l'acceptions pour marcher vraiment, véritablement, un enfant de Dieu et véritable devant sa face. Quelle est donc cette différence? Eh bien, c'est une question de nature. Hein? Le chrétien possède deux natures. L'homme religieux n'en possède qu'une. L'homme religieux n'a que la nature charnelle terrestre. Le chrétien possède une seconde nature, la nature divine. C'est toute la différence et elle est immense. Gloire à Dieu. Parce que nous avons changé et nous avons une autre nature, la nature divine. L'homme religieux est né une fois pour mourir deux fois. Vous me suivez? L'homme religieux naît une fois pour mourir deux fois. Le chrétien, lui, naît deux fois pour mourir une fois et peut-être pas du tout. Vous m'avez compris? Vous me suivez? Parce que nous avons choisi de vivre avec Christ, de marcher dans ses voies et de vivre une vie chrétienne et sans qu'il y ait en nous le péché qu'il y avait autrefois. Nous désirons être saints et purs devant Dieu. Voilà. Alors, je répète, l'homme religieux naît une fois pour mourir deux fois. Le chrétien naît deux fois pour mourir une fois et peut-être pas du tout. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Nous devons vaincre tout ce qui vient de la vieille nature. L'Esprit de Christ habite en nous. Alléluia! Parce que nous avons choisi de le suivre et de marcher dans ses voies. Et c'est pour ça que l'Esprit de Christ habite dans nos cœurs. Et gloire soit rendue à Dieu, que ça soit une chose aussi extraordinaire que l'Esprit vienne habiter dans de telles créatures que nous. Vous savez, je ne sais pas vous, mais quand je me regardais, ou que je pensais à ce que j'étais avant, comme tout à l'heure, Michael parlait du miroir. Un miroir nous révèle, n'est-ce pas, si vous êtes bien coiffé le matin pour partir à votre travail, si vous êtes bien habillé, enfin tout ce que vous voudrez. Mais la parole de Dieu, c'est un miroir. Et elle nous enseigne, elle nous instruit. Et il y a là, eh bien, le Saint-Esprit qui travaille en nous quand nous le laissons travailler et faire véritablement un travail en profondeur afin que nous soyons des hommes et des femmes qui participent à la nature divine. Nous devons vaincre tout ce qui vient de la vieille nature parce que l'Esprit de Christ habite en nous, que son nom soit glorifié. Et moi, je bénis Dieu de ce que le Seigneur n'a pas voulu nous laisser seuls sur cette terre. Et il a dit dans sa parole qu'il enverrait un consolateur, qu'il enverrait en quelque sorte, eh bien, quelqu'un, parce que le Saint-Esprit, eh bien, c'est une personne. Il habite en nous et il veut vivre en nous et il veut marcher avec nous. Alors nous devons, eh bien, comprendre et connaître tout l'enseignement que le Seigneur nous donne dans sa parole. Mais il y a quand même une expérience à faire. C'est celle de Galates chapitre 2, verset 20. Il est dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Il s'est livré pour chacun de nous. Il s'est livré pour moi, il s'est livré pour vous. Et le vrai chrétien doit s'associer à Jésus dans sa mort sur la croix. Si on ne s'associe pas à la mort de Jésus sur la croix, parce qu'il faut que nous aussi, nous mourions en nous-mêmes. Alléluia. Et que nous mourions avec le Seigneur Jésus. Jésus a été crucifié avec Christ. Et il a été crucifié. Et si je vis, n'est-ce pas, comme il dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et quand je pense à ce verset, je dis quand même, il fallait que le Seigneur nous aime et qu'il ait de la patience à l'égard de chacun de nous pour pouvoir nous amener à la croix, pour pouvoir nous repentir et là confesser notre péché, notre misère, en lui disant, Seigneur, aie pitié de moi et pardonne-moi, pardonne mon péché. Je me souviens, pour la première fois de ma vie, où je me suis mis à genoux dans ma chambre au pied de mon lit, et là, pleurant de toutes les larmes de mon corps, suppliant à Dieu de me pardonner et de me sauver, car je me sentais vraiment misérable et pécheur devant Dieu. Le vrai chrétien s'associe à Jésus-Christ dans sa mort sur la croix. De même que Jésus est mort au monde, ainsi le vrai chrétien mort avec Jésus sur la croix est également mort au monde. Alléluia. Et cela, c'est à la croix qu'il le reçoit. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est à la croix et qu'il reçoit une nouvelle vie. Sa vieille vie l'a quitté. C'est l'expérience de l'apôtre Paul qui peut affirmer « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ et qui vit en moi. » Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de savoir que Christ vit en nous et que nous ne sommes plus, eh bien, comment à diriger notre propre vie seul, mais nous avons à nous laisser diriger par le Seigneur, car il nous veut tout entier à lui, et il veut que nous marchions dans la sainteté et dans la pureté, comme je vous disais tout à l'heure. Jésus est mort pour chaque personne individuellement. Il n'est pas mort seulement pour la race humaine en général, mais pour chaque âme en particulier. Paul parle de sa propre expérience et de son âme et il affirme avec conviction, une conviction profonde, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu et qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et quand nous comprenons cela, eh bien, nous ne pouvons que ployer le genou devant la face de Dieu et dire, Seigneur, merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir délivré du péché, merci de m'avoir changé, transformé, merci de m'avoir maintenant éloigné des choses misérables de ce monde. Je ne sais pas comment vous êtes ou comment vous faites. À la maison, j'ai la télévision, je puis vous le dire, mais il y a des choses que je ne peux pas voir à la télévision. D'ailleurs, je la regarde presque jamais, je vous l'affirme. Mais il y a des choses qui m'écœurent, qui me mettent mal à l'aise. Mais je dis, mais comment le monde est devenu? Le monde est devenu fou. Et c'est vrai, le monde est dirigé par la puissance du mal, la puissance des ténèbres. Et le monde, en regardant ces choses à la télé, il trouve que c'est bien, que ça distrait. Mais moi, chrétien, je ne peux pas regarder. Je me dis ces choses-là, il faut que le chrétien sache les mettre de côté. Et bien souvent, je me suis trouvé dans des familles chrétiennes et en faisant des visites, il y avait la télévision qui marchait et je me suis aperçu que certains chrétiens regardaient des choses infâmes. Alors, faisons attention, frères et sœurs, de ne pas être de ceux et qui pêchent volontairement et sachant que ces choses-là, elles ne doivent pas pénétrer dans notre cœur parce que quand vous regardez des choses comme cela, elles viennent troubler parfois eh bien, ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Alors, je vous disais que Jésus est mort pour chacun en particulier, et Paul pouvait dire, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et c'est cette certitude qu'il faut de savoir que Jésus nous a aimés, et particulièrement, individuellement, et c'est pour cela qu'il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et c'est extraordinaire de savoir que le Seigneur, eh bien, tend la main vers des pécheurs que nous sommes, que nous avons été, des pécheurs qui ne méritaient que la condamnation, il a lui pris sur lui, il s'est chargé de nos péchés, et de notre misère, et de notre vieille nature. Alors il est dit qu'il est mort afin que quiconque croit en lui. Alors quiconque, c'est vous, c'est moi, c'est chaque individu en particulier. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 13, voici ce que nous pouvons lire au sujet de la parole faite chair. Et il est dit ceci, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. » Et c'est une grâce extraordinaire que Dieu nous a faite de pouvoir naître de nouveau avec une nouvelle vie et qui est la vie de Jésus dans chacune de nos vies. Et quand les gens nous voient vivre, eh bien, il s'étonne parfois que nous soyons transformés, changés comme cela, métamorphosés. Mais c'est un miracle, moi je dis c'est un miracle de la part de Dieu qui a fait en nous que nous devenions de nouvelles créatures. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Que désigne cette parole? Eh bien, cette parole désigne, c'est Jésus. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. En effet, Jésus, vous savez qu'il est né parmi les Juifs, et il a été rejeté. Mais pour ceux qui l'ont reçu, ils ont été l'objet d'un grand miracle, et ils sont devenus de véritables enfants de Dieu. Dieu soit béni. Gloire à Dieu pour les frères, les sœurs, et qui ont tout laissé, abandonné les choses du monde pour devenir enfants de Dieu. Je me rappelle, avant de donner mon cœur au Seigneur, j'aimais le monde, j'aimais tout ce qui se faisait dans le monde. Je faisais du sport, je chassais, j'allais à la pêche. Et le dimanche, quand il y avait une fête, je ne la loupais pas, j'y allais. J'aimais danser, j'aimais aller au cinéma. Mais le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, tout cela, je l'ai mis de côté, je l'ai abandonné pour suivre le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, il va falloir maintenant que tu m'aides parce que moi je ne serai pas capable de tenir. Seul, on n'y arrivera pas. Seul, je n'y arriverai pas. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, pour nous aider à marcher dans une vie saine et sainte et droite devant lui. Dieu veut que nous soyons des véritables enfants de Dieu et que nous puissions lui appartenir entièrement et totalement. Tout être humain qui reçoit, eh bien, cette parole peut faire la même expérience, car les enfants de Dieu ne sont pas nés du sang, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire que même si nos parents étaient chrétiens, nous ne devenons pas automatiquement, nous, enfants, des chrétiens, ou nos enfants des chrétiens. Hein? Ils ne sont pas nés non plus de la volonté de la chair, ce n'est pas par des efforts pour devenir meilleur, en essayant de s'améliorer, que l'on va rentrer dans le royaume de Dieu. Nous n'y arriverons pas. Moi, je me souviens, j'essayais de faire les choses bien, et puis quand je croyais que j'avais fait bien, j'avais fait mal. Et je me rendais compte que je n'étais pas vraiment dans la voie de Dieu que certains chrétiens m'avaient montré, parce que je n'étais pas encore devenu chrétien. Ils ne sont pas non plus nés de la volonté de l'homme, ce n'est pas par des rites, des cérémonies où que l'on devient un enfant de Dieu. Il n'y a qu'un moyen. Le moyen, c'est de recevoir la parole de Dieu dans son cœur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà le moyen. Si nous recevons Jésus dans notre cœur, si nous recevons la parole de Dieu dans notre vie, eh bien, nous acceptons Jésus et nous pouvons marcher avec lui jour après jour. Vous savez, quand Paul et Silas ont pu dire au geôlier, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que cet homme a crié tout à coup en demandant à Paul et à Silas, « Mais que puis-je faire pour être sauvé ?» Et Paul et Silas lui ont dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et cela est arrivé, vous pouvez le lire dans Acte 16. Et quand ce geôlier, alors qu'il avait été méchant à l'égard de Paul et de Silas, il les avait battus, il les avait mis en prison, et Paul et Silas, dans la nuit, chantaient, ils priaient le Seigneur, et tout à coup, il est dit qu'il y a eu comme un tremblement de terre, et que les fondements même de la prison se sont ébranlés, les portes sont ouvertes, et ce geôlier qui était là, avec son épée, il regardait, il pensait que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Alors Paul a crié d'une forte voix, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors que tous les fers étaient tombés, tout ce qui tenait les prisonniers s'était défait, mais ce geôlier, il s'est converti, il a donné son cœur au Seigneur, il a amené Paul et Silas chez lui, et Paul et Silas ont pu lui prêcher l'Évangile, et toute sa famille s'est donnée à lui. Quelle grâce! C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que Dieu peut faire des prodiges et des miracles. Mais le plus grand miracle, je crois, qu'il peut faire, c'est de transformer une vie tout entière, alors que souvent, eh bien, cette vie, j'ai connu un homme qui était devenu prédicateur par la suite, il était contre Dieu à fond, et il était contre les chrétiens à fond, s'il pouvait faire des misères à des chrétiens, il le faisait. Mais le jour où il s'est converti et qu'il a donné son cœur au Seigneur, ça a été un homme transformé, changé, métamorphosé, comme si quelque chose avait été changé complètement. Vous savez, comme quand une chenille qui se traîne par terre et puis que tout d'un coup, et quelques jours après, elle devient un magnifique papillon et qui s'envole. C'est exactement pareil. Et cet homme a été transformé, puis il est devenu prédicateur de l'Évangile. C'était un grand ami à moi. Et je puis vous dire, aujourd'hui, il est auprès du Seigneur, mais je puis vous dire qu'il a fait un travail merveilleux pour Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir, ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Je voulais simplement apporter la parole en vous disant ce que le Seigneur nous enseigne et nous apprend. Et nous ne voulons pas dévier, nous voulons rester dans la voie divine et rester sur le chemin sur lequel le Seigneur nous a placés. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons pour ta parole. Et c'est vrai que tu nous as changés, c'est vrai que tu nous as transformés, c'est vrai que tu as fait de nous, Seigneur, des enfants de Dieu, et nous voulons rester, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, remplis de toi, de ton esprit. Nous voulons recevoir, Seigneur, tes enseignements, et nous voulons accepter, Seigneur, oh Dieu, tout ce que tu nous apprends, et tu nous enseignes dans ta parole, afin que nos pieds ne dévient pas, nos cœurs ne dévient pas, que notre esprit ne dévient pas, que nos oreilles ne dévient pas, mais au contraire, que chacun de nous, Seigneur, puisse entendre et écouter et marcher dans tes voies. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Et merci pour ta bonté. Bénis mes frères, bénis mes sœurs et bénis ces paroles, Seigneur, que je viens de prononcer, peut-être maladroitement, mais toi, Seigneur, tu fais le reste. Que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce. Amen.